Regard sur le Forum des jeunes ambassadeurs de la francophonie des Amériques. Un document audio réalisé par Raymond Poirier, une production de CKRL 89.1 FM à Québec, en collaboration avec le Centre de la francophonie des Amériques et l'Institut du Nouveau Monde.
Moi, je suis toujours considéré comme étant un francophone averti, mais même à ça, venir à un forum comme ça, on en apprend du nouveau par rapport à la dynamique de la francophonie des Amériques internationales, mais quand même sur les continents américains. Je me trouvais assez sage quand même, mais malgré ça, j'ai appris une tonne de choses.
Je savais pas du tout en arrivant ici que ça allait être si concret. Souvent, on parle de forum, on parle plus de blabla et de discussions, théories, tout ça. Puis au fil des jours, en fait, plus les jours avançaient, plus je réalisais qu'on pouvait finalement tenir quelque chose et on pouvait évoluer vers quelque chose qu'on allait pouvoir tenir.
L'ambiance qu'il y a ici dans ce forum, protéger, défendre l'identité et la langue, ça vraiment m'a frappé, m'a touché et m'a donné encore plus d'envie d'aider dans cette lutte. Mais je suis encore plus francophile qu'avant.
Ce qui m'a suivi le plus, je pense, c'est le sentiment d'appartenance à la francophonie. À la fin, là, je me rends compte qu'on est tous francophones, on fait tous partie de la francophonie des Amériques.
Vendredi 26 juin, c'est la fête. Pour 50 jeunes et plusieurs intervenants, cette journée marque la fin de 10 jours d'activité, de réflexion, de discussion. Mais reculons un peu dans le temps. Il y a quelques 160 heures. Nous sommes en plein cœur de Québec, au Canada. Le 19 juin, 9 heures. Les participants sont arrivés la veille. L'accueil effectué, ils sont regroupés pour le lancement du Forum des jeunes ambassadeurs de la francophonie des Amériques.
Mon idée est partie avec mille misères. Les cigales de nuit sont après se taire. Les étoiles brillent fort dans le ciel clair. Moi, je peux sentir les fleurs du cimetière. Je joue ici dans la nuit après mourir. Il semble que l'espère va jamais finir. Comme il y a un diablesse après me poursuivre. Comme la délivrance va jamais s'en venir. Je suis héros d'ailleurs. Oh baby, je suis héros d'ailleurs. Parce que t'es parti avec mon cœur. Je suis héros d'ailleurs. Oh baby, je suis héros d'ailleurs. Parce que t'es parti avec mon cœur.
Organisé conjointement avec l'Institut du Nouveau Monde, ce forum se situe au cœur des objectifs du Centre de la francophonie des Amériques, qui alors avait tout récemment démarré ses activités. Michel Robitaille, président-directeur général du Centre.
Le Centre de la francophonie des Amériques a été inauguré officiellement le 18 octobre 2008. Le but du Centre, c'est de faire la promotion de la langue française et la diffusion de la langue française dans les Amériques, donc veiller à la pérennité du fait français dans les Amériques. Nous visons les communautés francophones qui sont en situation minoritaire. Nous visons les francophiles qui sont très importants pour la survie de la langue française dans les Amériques. Et le Centre met beaucoup d'emphase sur le volet jeunesse.
quelle est l'adéquation entre le centre et le sommet qui s'ouvre aujourd'hui?
Le centre est l'initiateur de ce forum des jeunes ambassadeurs de la francophonie des Amériques. Nous croyons que c'est par ce forum que nous allons commencer à créer et à tisser un réseau d'ambassadeurs du centre et de la francophonie des Amériques. Nous sommes très heureux d'avoir des représentants des trois Amériques. Nous avons l'Amérique du Sud, une dizaine de participants, une douzaine de participants des États-Unis. La zone Caraïbes, les Antilles est représentée également. Et bien sûr, les communautés francophones et acadiennes du Canada et le Québec. Donc, 50 jeunes qui ont été sélectionnés à partir de 177 dossiers et qui sont ici pendant 10 jours pour apprendre à se connaître, pour suivre des ateliers et surtout pour concevoir des projets que nous allons appuyer pendant l'année 2009-2010 pour leur réalisation.
Comment s'est fait la sélection des jeunes?
Les jeunes donc devaient tout d'abord motiver leur candidature et puis nous avions un jury international qui avait été formé pour qu'il soit représentatif. Nous voulions également avoir une diversité pour avoir une bonne représentation géographique et nous voulions avoir des jeunes qui sont déjà engagés mais qui ne sont pas encore les leaders parce que au tout début, lorsque nous avons pensé à la création de ce forum, nous avons réuni un comité aviseur, encore une fois international, des jeunes qui sont déjà des leaders dans leur communauté, et ils nous ont dit il ne faut pas réunir les leaders, parce que les leaders sont déjà ceux qui sont actifs dans leur milieu, qui dirigent des organismes, alors que si vous faites venir des jeunes qui sont engagés, vous allez pouvoir participer à une complémentarité de formation et vous allez pouvoir les aider à aller plus loin et surtout à s'établir un réseau très important, parce que la seule façon de réussir les Amériques, c'est grand, c'est de pouvoir travailler ensemble, c'est de pouvoir réseauter, utiliser les nouvelles technologies, ce qui est très important. Donc, on croit que la clé du succès, c'est la jeunesse, et c'est pour ça que nous avons choisi des jeunes qui étaient engagés, qui avaient des expériences diverses, qui correspondaient aux trois profils que nous allons mettre de l'avant, c'est-à-dire communication, culture et citoyenneté.
Les cartes sont sur table. Les jeunes savent pourquoi ils sont sur place, pour développer des idées, pour se rencontrer. C'est ce que nous explique Michel Venn, directeur de l'Institut du Nouveau Monde.
Le premier objectif, c'est de créer un réseau de jeunes francophones ou francophiles qui habitent dans toutes les régions des Amériques. Veiller à ce que ces gens-là restent en contact et s'appuient les uns sur les autres pour changer le monde dans leur communauté.
Qu'est-ce qui a amené à la mise en place de ce forum-là?
Le Centre de la francophonie des Amériques a été créé l'an dernier. Et l'été dernier, à Québec, à l'occasion du 400e, l'Institut du Nouveau Monde organisait son école d'été annuelle, au cours de laquelle il y avait un parcours de dialogue entre des jeunes du Québec et des jeunes francophones d'ailleurs au Canada et dans les Amériques. Et ça a donné envie aux deux organisations de travailler ensemble à partir de 2009, à partir de cette année, pour créer un forum qui serait annuel et qui réunirait des jeunes qui viendraient des quatre coins des Amériques et qui ont envie justement de s'appuyer sur ce qu'ils ont en commun, cette langue française, pour prendre leurs responsabilités dans leur communauté puis contribuer à forger l'avenir.
Et c'est important des activités comme ça pour le rayonnement aussi du français dans les Amériques?
C'est clair que la langue est un véhicule qui permet d'exprimer une vision du monde, une façon de voir le monde. Parce que nous sommes tous francophones, ça ne veut pas dire que nous sommes tous pareils. Il y a des jeunes francophones qui viennent des Antilles ici aujourd'hui, qui viennent du Brésil, qui viennent de Louisiane, qui viennent d'ailleurs aux États-Unis, dans tout le Canada, de Montréal, de Gaspésie ou d'ailleurs au Québec. Nous avons tous nos particularités, mais nous avons en commun ce bagage culturel, une histoire, une vision du monde qu'il faut perpétuer. Le fait de promouvoir la langue française dans les Amériques, c'est une manière de promouvoir le pluralisme dans les Amériques, de montrer que les Amériques, c'est pas monolithique, qu'on peut avoir une Amérique à l'américaine, à l'états-unienne, qu'on peut avoir une Amérique francophone, qu'on peut avoir des Amériques, des façons de voir le monde dans ce vaste continent. Et dans ce sens-là, oui, un forum comme celui-ci contribue à promouvoir la langue française, mais je dirais surtout la vision du monde qui est véhiculée par cette langue qui réunit des cultures diverses.
A signalé au lancement la présence de représentants des gouvernements, d'abord celui du Québec.
Le Québec a toujours été un leader au niveau de la francophonie. Même la ville de Québec est perçue comme le berceau de la langue française en Amérique. Donc, il y a un symbole à faire ce premier forum-là dans la ville de Québec, au Québec, mais dans la ville de Québec également. Donc, ça, c'est un message qui est très clair, que le Québec est un leader, va continuer de l'être, va continuer à assumer son leadership au niveau de la langue française.
Est-ce que vous avez des attentes, des espoirs face à ce forum-là?
Je vous dirais que c'est de mettre des bases, c'est de créer beaucoup des réseaux de contacts, un premier forum comme ça. Les gens vont devenir des ambassadeurs. Par la suite, ce réseau-là va grandir, va prendre de plus en plus d'importance. Et il y a des projets qui vont ressortir de là. Ils vont juste être bons pour le rayonnement de la langue française en Amérique. Donc, ça ne peut être que positif.
C'était le représentant du gouvernement du Québec, Patrick Huot, député de Vanier. Un représentant du consulat de France était aussi sur place, Stéphane Cata, conseiller à l'action et à la coopération culturelle.
Alors, il y a une francophonie mondiale. Il y a eu le sommet de la francophonie ici à Québec au mois d'octobre qui a montré combien la francophonie était mondiale, avait une dimension mondiale. Mais je pense qu'il est intéressant qu'on ait une approche différenciée aussi par continent, par les Français en Amérique et par les Français en Afrique. Ça n'a pas tout à fait la même signification, ça n'a pas tout à fait le même objectif. Alors c'est vrai qu'en Amérique, la francophonie était plutôt méconnue. Tout le monde connaît bien sûr le Québec. Beaucoup de gens connaissent les Acadiens, les Louisianais, mais on ne sait pas que le français, aux États-Unis par exemple, eh bien ça concerne des États comme la Floride, comme une bonne partie de la Nouvelle-Angleterre. Et puis il y a des communautés françaises également dans les Caraïbes. Évidemment, il y a les territoires français, nos départements français d'outre-mer. Et puis il y a aussi dans ces îles qui ont été sous domination anglaise. Eh bien, il y a un fort souvenir du français. On voit des noms de lieux, ça se retrouve dans la toponymie, hein. Ça se retrouve dans les noms communs, dans les patronymes. Et ça se retrouve aussi dans le créole qui est parlé par exemple à Sainte-Lucie, dans des territoires qui ont été sous domination britannique, est très proche du créole que l'on parle en Guadeloupe, en Martinique, parce qu'il a un fond de français. You tight tape on dans la nuit. Hey babe, are you tight tape on dans la nuit? Ça fait toute la nuit, j'appelais espérer ici.
Sur la Gaspésie. Mon étoile de terre, trouvée au large d'un matin d'eau douce, je m'amuse à t'écrire, venteuse comme toi, abreuvée de rosée. Ma belle Gaspésie à moi, ton sel coule dans mes veines, tu m'appartiens dans mes mains de mémoire, je suis ton reflet dans la respiration des choses. Ma belle Gaspésie à moi, gardienne de Mira à faire.
Tour à tour, la cinquantaine de participants prendra le micro, chacun porteur de leurs attentes, leurs idées, de leurs projets.
Je suis venue chercher justement la diversité. Je suis venue chercher d'autres jeunes à qui ça tenait à cœur, mais je suis venue aussi chercher toute l'effervescence, les contacts, l'esprit, l'atmosphère générale de la semaine.
J'avais vraiment envie d'ouvrir mes horizons, de voir des francophones de l'extérieur du Québec, comment ils vivent, c'est vraiment pour apprendre.
Plutôt les échanges et connaître les accents et ce qui se passe dans mon continent, parce que normalement on a l'habitude, moi je suis pas francophone, alors de regarder ce qui se passe plutôt en France. C'est intéressant de voir ce qui se passe au reste du continent et d'échanger avec les gens du Québec, du Canada, des gens de Saint-Yves aussi.
Alors une boîte d'outils, une boîte d'amis aussi, peut-être de futurs collègues, collaborateurs, parce qu'en fait on arrive à rien tout seul. Donc l'idée c'est vraiment de trouver des partenaires éventuels pour à la fois partager des idées et puis peut-être mettre aussi en place des projets communs. Vraiment parler coopération internationale d'Amérique, que ça prenne un peu son sens autour de projets.
Des nouvelles idées pour comment faire les choses, des nouveaux modes de fonctionnement, des nouveaux réseaux, mais surtout une compréhension accrue, je pense, de la francophonie des Amériques.
Moi, j'espère avoir un panorama plus ample de ce qu'est la francophonie, et surtout la francophonie franco-canadienne, parce que moi, comme je travaille à l'Acadie, j'aimerais savoir vraiment les problèmes qu'il y a.
Je veux créer des liens, c'est clair. Et aussi de ne plus être isolé dans notre petit coin du monde à parler français, quand on est tout isolé dans notre coin du monde à parler français en Amérique.
découvrir un peu la francophonie des Amériques dans toutes ses entités. Et puis aussi pour m'outiller un peu, pour savoir un peu où est-ce que la jeunesse francophone des Amériques s'oriente. Et puis, enfin, pour pouvoir amener ça chez nous, puis à la limite proposer des projets dans ma communauté pour pouvoir justement aider à avancer et développer davantage l'effervescence francophone chez la jeunesse.
Je pense qu'à la base, ce qu'on devrait venir chercher, je ne sais pas si c'est le cas exactement, peut-être que dans quelques mois, je vais réaliser là avec le recul, mais c'est des outils pour promouvoir cette francophonie-là. C'est sûr que pour les gens qui sont dans des situations de, qui sont francophones dans des régions où est-ce que c'est majoritairement anglophone ou autre, c'est des outils pour promouvoir la langue puis faire en sorte qu'elle s'éteigne pas. Mais pour tout francophone, je pense que c'est juste aussi de comprendre un peu mieux d'où on vient puis de voir aussi qu'il y a un large réseau de personnes qui parlent la même langue que nous partout dans le monde, en fait.
Les idées auront bientôt la chance de s'exprimer, de prendre leur envol. Mais tout d'abord, il convient de jeter un œil en arrière, comprendre d'où l'on vient pour savoir où l'on s'en va. Quelle est l'histoire de ces Amériques francophones? Discussion avec Serge Bouchard, anthropologue et homme de radio.
Il y a une dimension française dans l'histoire de l'Amérique et de toute l'Amérique septentrionale. Ça inclut les Antilles, ça inclut évidemment le golfe du Mexique, ça inclut l'Ouest américain, les États-Unis d'Amérique, le Canada de l'Ouest et du Nord-Ouest jusqu'au Yukon, Alaska. Un gros morceau, ça. De l'Alaska jusqu'aux Antilles, de la Californie jusqu'au Labrador, il y a le fait français qui a été parfaitement oublié. Qui a été oublié dans l'histoire, occulté, d'abord parce que l'histoire s'est faite en espagnol, l'histoire s'est faite en anglais américain, l'histoire s'est faite en anglais canadien, et puis une sorte d'histoire s'est faite en français, canadien-français, mais c'est très nationaliste et très Vallée du Saint-Laurent. Et là, on a oublié la part américaine, je dirais, de l'Amérique française. Les Français, puis ultimement les Canadiens, ont été les seuls Européens, de souche européenne, à plonger dans un métissage aveugle, puis à rêver d'un monde nouveau, monde qui a été assassiné. Et du côté des Antilles, c'est la même chose. L'Amérique française qui va passer beaucoup, beaucoup à travers les esclaves, puis qui vont, ça va présider à la naissance d'Haïti. Saint-Domingue va devenir Haïti. Puis c'est la première révolution de libération sur terre, en terre d'Amérique, avant les Américains. C'est la première. Et elle va être assassinée aussi. C'est le grand rêve métis. Et puis cette langue française qui était commune et qu'on retrouvait de la Louisiane jusqu'en Oregon, de l'Oregon jusque dans les Maritimes et jusque dans les Antilles. Et puis qu'on a tout oublié ça.
C'est un peu, on pourrait dire, à la fois la tragédie et la richesse du fait français en Amérique, autant bon la tragédie de l'oubli, mais en même temps la richesse justement de ce métissage-là, il veut pas d'une pluralité de cultures qui n'ont pas nécessairement l'occasion de se rencontrer suffisamment.
Ben aujourd'hui, c'est ça. Il y a l'isolement. Il y a le repli. Bon, malgré l'ouverture sur le monde, il reste qu'il y a une sorte d'étourdissement de tout seul, chacun dans son coin, puis il y a des crises identitaires. Alors, après tout ça, on se retrouve chacun dans notre coin, puis on dit « qui sommes-nous? Qui avons-nous été? On s'en va où, en plus? » Parce que la guerre contre ce rêve métis, ça a été une guerre idéologique, ça a été une guerre raciste, et puis ça a été une guerre démographique. Donc, on a voulu éliminer ça du paysage américain. Il y a bel et bien une Amérique francophone et c'est une Amérique survivante. C'est ce français qui a survécu. Québec en est un bel exemple. Il y a plusieurs poches de petites poches dans le Canada. Aux États-Unis, il y a une francophonie aussi. Elle est invisible, mais elle est là parce qu'il y a tellement de métis, puis il y a tellement de Canadiens français. Puis on s'en va vers la Louisiane. La Louisiane, c'est un peu différent parce qu'à l'origine, c'était vraiment français, donc franco-français. Mais les Canadiens français vont rencontrer les Français au Missouri. Et là, c'est fascinant parce que c'est probablement à Saint-Louis, Missouri, que la grande soupe, la plus grande soupe, c'est français, canadien, français, avec les esclaves, et puis les esclaves libérés, puis les Indiens. Et là, tout ça va brasser dans un projet qui va avorter, qui était le projet de Nouveau Monde.
On a eu une version de l'histoire de Serge Bouchard. Ça, de fait, c'était fort intéressant parce que son approche, c'est de regarder notre histoire à travers les histoires de personnages historiques. Finalement, c'est d'entendre les histoires à travers le vécu de certains personnages. Ça m'a frappé.
Dans ma province, c'est quand même un fait un peu connu. Il y a plein de noms de places à Terre-Neuve qui ont des souches francophones. Et puis la plupart des Terre-Neuviens anglo les connaissent pas, ces souches-là, mais nous, on nous les apprend un peu plus à l'école francophone, on est chanceux.
Ça, c'était aussi un moment de discussion. Après, on a passé toute la nuit en train de parler parce que, bon, chacun a son histoire, justement. Alors, on a beaucoup discuté sur ce qui se passe dans chaque pays et c'était vraiment important, intéressant de changer.
On est tous liés. On dit toujours, la francophonie, c'est une grande famille. Ça dit pour de vrai, en fait, on est une grande famille. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Ça permet de solidifier nos métaphores, quelque part.
La découverte d'une Amérique francophone passe aussi par sa culture musicale. Pour clore la fin de semaine, pendant une heure, les jeunes se laissent porter par la musique traditionnelle des frères Brunet.
Les Français arrivaient par ici avec leurs airs traditionnels. Après ça, les Irlandais sont débarqués, les Écossais. C'est ce qui a créé, mettons, ce qu'on appelle aujourd'hui la musique traditionnelle du Québec.
C'est la musique du peuple. C'est sûr que ça transpire de toutes sortes d'émotions, des émotions qui sont drôles, qui sont plus difficiles, tristes, maussades. Donc, quand tu te retrouves à jouer une toune, ça a une histoire tellement forte.
Pourquoi cette musique? Question de compléter le passage du cinéaste André Gladue, pour qui la découverte de cette Amérique francophone s'est justement faite via la musique.
À un moment donné, dans les disques de blues qu'on reçoit, il y a un de mes amis qui arrive avec un disque, Champion Jack Dupré. Champion Jack Dupré? Attends, il y a quelque chose qui cloche, là. Ce type a un nom français. On regarde derrière la pochette, il venait de la Nouvelle-Orléans. Ça, c'était mystérieux pour nous. Une autre fois, un autre de mes amis apporte un disque, Clifton Chénier. Hein? Clifton Chénier, qu'est-ce que c'est ça? J'avais pas compris encore, parce que Clifton Chénier, dans son disque, chantait autant en anglais qu'en français. À mon tour, je rentre dans un magasin à rayons à Montréal, et je trouve un disque, perdu parmi des tonnes de disques de jazz et de tout ce que vous voulez, les blues du Bayou. Ah non, ça, je vais me tromper, qu'est-ce que c'est ça? Les blues, qu'est-ce que c'est ça, un Bayou? Je savais pas. Quand on est ignorant, hein? Bon, alors... On s'éduquait, quoi. Alors, donc, je vois ça, les blues du Bayou. Je lis en arrière, ils étaient en Amérique du Nord, en Louisiane. Je ne le croyais pas. Je ne croyais pas du tout que ça pouvait exister un truc pareil. Ils chantaient en français tout le long du disque. C'est les blues du Bayou, et en particulier la chanson de Bonsoir Moreau, qui m'a frappé. Ça a eu un effet de choc. Imaginez-vous que j'ai pris le disque, j'ai regardé en arrière les noms des gens. J'ai pris le bottin téléphonique de la Louisiane, enfin des États-Unis. J'ai retrouvé le numéro de Raven Reed. Je l'ai appelé, puis il m'a dit, « Mais écoute, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour t'aider? » J'ai dit, « Pardon, you speak French? » Mais il dit, « Oui. » Il dit, « Est-ce que toi, tu parles français? » Ben, je dis, « Oui, on fait que ça, nous. » Je dis, « Ça se peut pas, ça se peut pas. Vous parlez français en Louisiane? » Écoutez, on est en 1970. On ne savait pas au Québec que ça existait, tout ça. On n'en savait rien. Thank you.
Aux côtés de ces ateliers à caractère historique, les participants avaient aussi à leur horaire des rencontres à caractère peut-être plus pratique. L'objectif, développer leurs attitudes. Quelques exemples. Premièrement, s'initier au processus créatif avec André Fortin de l'Institut du Nouveau Monde.
Le processus créateur a une certaine logique. D'abord, il faut comment partir avec l'analyse, la question, le pourquoi qu'on veut produire des idées autour d'un thème ou d'un sujet. Après ça, il y a une période qu'on appelle de production. Donc, on lance les idées et l'idée, c'est d'en avoir le plus possible. Toutes les idées sont les bonnes. Après, il y a une phase qu'on appelle l'incubation qui est importante à installer parce que notre cerveau continue à travailler. Il y a comme une latence. Puis, il y a d'autres idées qui vont te venir au courant des prochaines journées, ce qui va t'amener à finalement une deuxième période de production d'idées. Puis une fois que tu as fait ça, là, tu choisis les meilleurs puis tu fais le tri dans tout ce que tu as produit.
On s'intéresse aussi à la question du leadership en compagnie de Jacques Ouellet, un spécialiste en la matière.
Un leader se doit d'exercer une certaine influence auprès des gens, influence positive pour les amener à un projet intéressant, à compléter des choses intéressantes. On dit souvent qu'on va faire la gestion des ressources humaines. Je pense qu'il faut qu'on dise plutôt faire la gestion humaine des ressources, puis amener nos leaders à comprendre ça davantage, puis à regarder la dimension des personnes, pas seulement de la finalité d'un projet. Puis de cette façon-là, les gens vont les suivre davantage, ils vont se sentir plus confortables dans leur zone de confort, et les gens qui vont les suivre vont se sentir confortables aussi. Le réseautage, c'est ça, le nerf de la guerre. Plus qu'on est en réseau, plus qu'on se connaît, plus on va être fort.
Ou encore à l'art, à la place de l'artiste. On écoute Éric Georges qui œuvre à l'École nationale des arts d'Haïti.
L'artiste a une mission aujourd'hui dans le monde, cette mission de recréer le monde, de recréer les sociétés vers un monde meilleur, vers un nouveau monde. Donc, moi, je pense que c'est l'artiste peut faciliter ce travail, parce qu'au-delà de toutes les langues, il y a une langue qui les relie toutes, c'est la langue du cœur, c'est la langue des émotions. Et là, moi, je crois que c'est l'artiste qui peut mieux faire ce travail. Et c'est important de ne pas se voir, de ne pas se dire que moi, je me complais, je réussis. Mais comment pouvez-vous réussir si celui qui est à côté de vous ne réussit pas? Comment pouvez-vous être dans le bonheur si celui qui est à côté de vous est dans le malheur? Moi, je pense qu'un petit peu de bonheur, on peut partager et essayer de construire ce monde, parce que je pense que nous avons ce rôle.
On a eu une conférence avec André Fortin sur la créativité. C'est quelque chose que j'avais l'impression que j'avais perdu depuis belle lurette, à cause du métro, boulot, dodo, à cause de mon travail aussi, où il faut vraiment être productif. En revenant ici, André Fortin nous a donné un atelier sur la créativité, puis ça m'a vraiment fait du bien. Toute la semaine, on a été vraiment porté à être très, très, très créatif. J'ai l'impression que je déborde d'idées quand je vais retourner chez moi.
Côté leadership, ça me... Tu sais, quand tu t'assois dans une conférence, puis ça bouillonne, puis t'as plein d'idées, puis là, ça te stimule, puis t'as envie d'aller chez vous tout de suite, puis d'aller appeler toute la communauté pour faire quelque chose. Donc, je pense que c'est un bon signe. Je pense que c'est le début de quelque chose de magnifique.
Ça nous a fait beaucoup réfléchir sur nos conduites, comment, quand on est dans un groupe, comment agir. Des fois, tout le monde veut imposer ses idées. Alors, ils ont trouvé la forme de nous amener vers la solidarité, le travail en groupe, le travail en communauté. Et bon, je crois que ça marche. Hey, Bear, you tight et bon dans la nuit. Hey, Bear, are you tight et bon dans la nuit? Ça fait toute la nuit, j'appelais espérer ici.
Déjà la moitié du chemin parcouru. Ateliers, discussions, conférences, où en sont les participants? Comment va la préparation des projets?
Des groupes se sont formés indépendamment, mettons, deux gars, deux filles, ensemble là, et ils ont telle idée, puis ce groupe-là avait une idée semblable. Il y avait beaucoup de gens qui avaient les mêmes idées, et en se présentant, on a découvert cela.
Tout le monde est inquiète pour faire un bon projet. C'est pas facile non plus, un projet, quoi.
Il y a certaines personnes qui sont venues ici vraiment avec des projets en tête déjà très élaborés. Donc, eux, on voyait qu'ils voulaient vraiment commencer à travailler là-dessus puis bientôt présenter. Puis d'autres personnes qui étaient venues un peu en atome libre, si je peux dire, qui allaient s'intégrer à différents groupes qui avaient déjà des idées en tête.
Il y a une grande variété là d'idées et de concepts en ce moment. C'est dû au fait qu'en arrivant ici, on a commencé à nous en éclatant cette idée de ce qui est la francophonie dans les Amériques, parce que tous à chacun, si on avait à proposer individuellement, quand on propose nos idées, ça fonctionne parce qu'on reste dans le régional, on reste dans notre espace commun. Le plus grand défi, de fait, en ce moment, c'est de trouver quel est cet espace commun. C'est quoi le mot qui existe pour définir l'idée et c'est quoi même cette idée-là? En ce moment, on est très vaste. On est à 50 000 pieds encore.
On a beau avoir une idée de base, l'actualiser avec tous les intérêts de tout le monde, ça c'est un petit peu plus difficile et ça fait 2 jours qu'on est dans les débats d'idées et tout ça, c'est super intéressant, mais on a un point commun, on a déjà notre objectif où se rendre, donc je pense que ça rend le truc beaucoup plus facile.
Ce sont vraiment des projets qui sont en pleine construction, donc ils peuvent évoluer, ils peuvent se marier avec d'autres, ils peuvent divorcer, ils peuvent se rassembler après, donc là c'est vraiment la première étape. À la fois s'écouter, échanger, être pas d'accord, voire même peut-être même se disputer parce qu'on pense pas avoir la même idée. Et puis au fur et à mesure, on se rend compte que finalement, les idées peuvent se regrouper, se rassembler. On donne du sens à ce qu'on appelle la concertation.
Je me sens vraiment comme une éponge depuis que je suis arrivé. J'écoute, je parle avec les gens, je me suis promené, on est 50 ici. Donc ça me permet de voir un peu les horizons. C'est un forum de confrontation. Comme Québécois, je suis confronté de toutes parts à une vision qu'on m'a donnée du français, de la francophonie, qui, depuis 4 jours, est en train d'exploser. La première, c'est que le Québec est le seul État francophone de l'Amérique. J'ai entendu ça souvent. Et là, depuis 4 jours, je réalise qu'on n'est pas seul. Au contraire, il y a une francophonie vivante. Il y a plein de jeunes francophones et francophiles qui sont intéressés à développer le fait francophone. Puis moi, je me sentais toujours seul. Puis sinon, l'autre, c'est l'identité. C'est comme quand on s'identifie aux Amériques, on s'identifie au Québec, on est souvent en opposition à quelque chose. Et là, depuis quelques jours, je suis en train de réaliser que je suis pas nécessairement obligé d'être en opposition aux autres.
Ça nous confronte en fait à notre propre situation puis à la situation des autres. On voit certaines ressemblances, mais aussi certaines différences marquantes. Mais à la fin de la journée, on se rend compte qu'on a quand même tous ici un but largement commun. C'est un peu rassurant pour la francophonie. Personnellement, moi qui viens d'une communauté francophone assez minoritaire, on parle de 0,3% de la population de la province. C'est bien de voir qu'il y a des personnes qui réfléchissent ici, non seulement à ce qui se passe chez eux, mais aussi ce qui se passe chez nous et comment on peut mettre ces communautés-là en lien.
Au commencement, on se sentait un tout petit peu exclu, ceux qui sont francophiles, pas francophones. Mais maintenant, ils ont compris que pour nous, c'est différent parce que pour nous, c'est un choix. Et on est en train de lutter pour une langue que c'est pas la nôtre. Maintenant, je crois que ça a étonné le reste francophone. Maintenant, je crois qu'on commence à partager et c'est là où sort la richesse. On se rend compte de qu'il y a des francophones, mais qu'il y a une grande quantité de francophiles aussi. Et nous sommes ici en train de représenter ça.
On se rend compte qu'il y a énormément de choses qui marchent pas au niveau de nos pays respectifs. Par exemple, tout ce qui est respect des cultures, problèmes de gouvernance aussi, ou comment mettre en place des projets concertés, comment faire un monde plus durable, plus équitable, plus responsable, solidaire également, qu'on arrête de penser chacun pour soi. Donc toutes ces idées-là, en fait, ont émergé. On se rend compte qu'on a les mêmes valeurs, les mêmes objectifs. Donc maintenant, l'idée, c'est de voir comment les concrétiser.
Son dit au soir, ouais, c'est tout bon. C'est mon mébelle et de la boisson. À boire du tequila, moi, je bois du rhum. On crie bien fort avec de l'agrément. Et quand ce gros bug là, plein de tatou, trappe mes belles et dit, je veux danser et tout. Avant que je pouvais jongler, à qui j'aurais fait, il était par terre et je croque qu'il pleurait. Je connais pas si j'avais dit ça avant. Mes belles fait du karaté et c'est bien bon. Arrange mes bancs. Comment t'aimes ça?
Nous sommes donc à la mi-parcours, mardi 23 juin. Cela dit, encore un programme bien chargé pour les participants. En parallèle du développement des projets et des moments plus festifs, on leur propose quelques rencontres. L'une de celles-ci, l'écrivain et penseur Dany Laferrière.
La langue n'est pas la seule chose qui définit une culture. Quand vous lisez Hemingway en français, vous savez très bien que vous lisez un Américain. Vous savez très bien que ce n'est pas Mauriac ni Chamoiseau. Et pourtant, vous le lisez en français. Donc, il y a quelque chose que si la langue ne charrie pas la culture comprend tellement la langue qu'elle peut se traduire sans perdre de son essence. Dans la question de la langue, on n'a pas compté assez tout le monde. Et peut-être que c'est ça le rôle de la francophonie en Amérique, c'est de commencer aussi par compter vraiment les gens et compter tout le monde. Et l'un des bienfaits de la francophonie, quand elle est apparue, c'est qu'elle a fait taire le mépris qu'il y avait sur les gens. Vous savez, avant, on a voulu compter tous les parlants français, il n'y avait que des blagues sur les Belges. Depuis que le discours de la francophonie commence à enfler, il y a moins de discours de blagues sur les Belges. Parce que ce n'est pas des Belges, c'est des parlants français. On ne veut pas les fâcher. On ne veut pas qu'ils parlent allemand. On ne veut pas les fâcher. Donc ça veut dire que ça peut, cette façon de récupérer, de ramener tout le monde ensemble, peut avoir un effet même sur le racisme, même sur l'exclusion.
D'un atelier à l'autre avec Serge Bouchard, avec André Gladu, et puis là, juste maintenant avec Dany Laferrière, c'est que des fois, il y a des fils conducteurs, mais des fois, il y a des choses qui sont très paradoxales. Et moi, il y a une chose qui vient de me frapper. On vient de sortir d'un atelier, et puis on entend parler de quelqu'un qui, le concept d'avoir une clé pour une porte, pour lui, c'est alien. Tout le principe d'avoir une clé pour une porte, puis qu'on rentre, puis qu'on sort toujours de la même porte, pour lui, il n'a pas connu ça de sa vie. Eh bien, ça m'a fait beaucoup réfléchir, parce que dans ma réalité à moi, on a des clés et on a parfois plusieurs portes, mais des fois, on choisit quand même d'en garder plusieurs fermées à clé pour toujours entrer puis sortir par la même. Je me rends compte que c'est mon univers à moi. C'est pas nécessairement l'univers qu'on veut recréer pour l'ensemble de la francophonie des Amériques. C'est là que je suis rendu, moi, dans mon parcours, parce que moi, me sentant très isolé au Manitoba français, me rendre compte que le sentiment d'être isolé, c'était dans ma tête, quoi. C'est pas une réalité. C'est juste que je laisse toutes mes portes ouvertes et puis ensuite que je mets les clés aux poubelles.
Les participants ont aussi pu assister plus tard dans la semaine à un débat fort animé sur le thème de l'engagement pour le français.
Sitôt venu au Nouveau Monde, on a dompté les hivers et fabriqué de la terre. On avait la tête à la fête et le cœur au labeur. Opiniâtre, on n'a jamais laissé mourir le feu dans l'âtre. Car nous avons la tête à Papineau, la longue langue agile de D'Acosta, le cœur corsaire de d'Iberville qui envoie en nos veines le pur sang mêlé de Riel et des Premières Nations. En somme, nous sommes des surhommes uniques, générés par le génie génétique de l'Europe et de l'Amérique. Inéluctablement, nous voguons vers le néant, mais allons-nous mourir en main quand nous sommes nés géants?
Les invités, bis de la formation Loco-Locas, Jean-Marie Nadeau, président de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick, et Gisèle Lalonde, présidente du mouvement SOS Montfort en Ontario.
Une langue, ça formate la pensée. Ça la transmet, ça la génère, mais ça la formate aussi. Donc, on a avantage à préserver un maximum de diversité linguistique, parce que c'est un maximum de diversité de pensée aussi qu'on préserve. Et puis, l'idée de fierté francophone panaméricaine, donc de redécouvrir la notion de citoyenneté américaine aussi, le fait que il n'y a pas juste les États-Unis qui sont américains, mais les Chiliens, les Québécois, les Louisianais le sont aussi. L'Amérique a été explorée, bâtie, pensée et construite, d'abord par les Autochtones, bien sûr, mais ensuite par les Français, avant même les Anglais. Donc, peut-être d'être capable de penser, de réapproprier l'Amérique en français, en fait. De dire, c'est plus Detroit, c'est Détroit. C'est pas Baton Rouge, c'est Bâton Rouge, tu sais. Parce que d'abord, c'est francophone, c'est français. Donc, c'est un peu ça, en fait, la fierté francophone panaméricaine.
Autant le français, globalement, devrait être préservé, on peut imaginer, mais autant chaque régionalisme aussi a droit à sa survivance.
Oui, absolument. Puis comme on dit dans une chanson, on peut être pour toutes les indépendances. Moi, les accents, j'entends un accent louisianais, enchanté, c'est de la musique dans mes oreilles. Je veux dire, c'est quelque chose qui me plaît. On se comprend. Des fois, on achoppe sur un mot, mais on explique. C'est une richesse, c'est une diversité, c'est un enrichissement, c'est sûr et certain.
Même à l'intérieur des francophonies, il y a différentes façons d'être francophone. C'est pas un concours. L'idée, c'est pas d'être meilleur qu'un Québécois ou d'être meilleur qu'un franco-ontarien. Parce que comme Acadien, la meilleure chose que j'ai à offrir à la francophonie, c'est mon acadianité. En autre mot, c'est de lui offrir ma différence pour que lui m'offre la sienne aussi. L'idée étant que, justement, parce qu'on parle de différence, c'est que ça finit par enrichir tout le monde. À ce niveau-là, d'être à l'écoute et faire appel à beaucoup plus de solidarité entre les francophonies nord-américaines, entre autres. Parce qu'aujourd'hui, les identités se conjuguent, ne s'éliminent pas comme auparavant. En autre mot, on peut être un Québécois qui vit en Acadie et qui choisit de devenir Acadien. Comme plein d'Acadiens, il y a 1 million d'Acadiens qui vivent actuellement au Québec et qui ont choisi de devenir Québécois, et ce qui est très bien. À ce niveau-là, arrêtons de confronter les identitaires et conjuguons-les. Mais ça veut dire que de part et d'autre, on accepte de sortir non pas de notre différence, mais surtout de l'indifférence. Et c'est un peu ça qui est dramatique, quant à moi, entre les francophonies nord-américaines. On n'a pas les réflexes solidaires très aiguisés. Je sais que le Québec, avec son projet qui lui est propre, a tendance à être un peu nombriliste, mais à ce niveau-là, je suis nombriliste aussi comme Acadien du Nouveau-Brunswick parce que j'ai mes propres défis à relever. Pendant que je me bats pour sauver mes écoles, c'est sûr que j'ai pas toujours l'opportunité de me préoccuper de ce qui se passe en Gaspésie ou aux Îles-de-la-Madeleine ou au Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Il faut travailler très fort, quand, surtout lorsqu'on est dans une province où le français est minoritaire. Il faut travailler très, très fort pour garder ces institutions ou pour en fonder. Il faut aussi de la solidarité. D'ailleurs, ça a été montré à Montfort. Et pour moi, la solidarité, c'est pas simplement d'être ami avec les gouvernements, c'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment avoir le peuple, le petit peuple avec nous autres et qui comprend les démarches qu'on est en train de faire pour justement améliorer le français chez nous. Quand on s'implique en politique, il faut savoir d'abord où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on cherche, et puis connaître les moyens pour aller les chercher. Et actuellement, on voit que quand on dit on se bat, ça ne veut pas dire qu'on se bat avec des coups de poing. On se bat vraiment sur le plan légal, surtout de faire ressortir au gouvernement qu'ils ont une responsabilité envers la minorité. On sait qu'un pays qui respecte sa minorité, c'est un pays que l'on peut respecter. Je pense que ça prend de la solidarité. Ça prend des leaders qui connaissent la cause, qui vont aller chercher des personnes clés. Il faut s'entourer de personnes très, très fortes. Faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur, vous savez, que les autres soient plus reconnus que nous. Faut être très humble quand on se bat pour la francophonie. Quand on croit, quand on est passionné de francophonie, ben là, je pense qu'on peut embarquer les autres et puis on peut vraiment arriver à nos fins.
Des discussions et des réflexions qui se sont d'ailleurs poursuivies bien au-delà du débat.
On a vu 3 différents points de vue et on s'est rendu compte comment ça c'est différent. Et l'identité, la perception qu'ont les Ontariens, les Québécois et les Acadiens. Et moi je dirais, avec cette conférence, je me suis rendu compte que le Québec s'enferme un petit peu et oublie les autres provinces. Et après, les Acadiens qui essaient de se mettre ensemble. Mais on voit la même chose. Ce sont les Acadiens du Nouveau-Brunswick qui se mettent ensemble et qui oublient les autres Acadiens. Donc, on voit comment les francophones font ça. Ils trouvent un ensemble de personnes, ils se mettent ensemble et ils oublient les autres, même les minorités et des minorités et des minorités. Et on fait de petits groupes de minorités. Et c'est ça ce qui m'a frappé.
La communauté francophone va être unie sur certains points, mais va toujours rester différente. C'est ce qui fait en même temps sa richesse. Il y a des gens pour qui la langue est purement une fonction utilitaire. Chez nous, c'est culturel. C'est essentiel au maintien de notre culture. Pour d'autres, c'est un outil de curiosité plus qu'autre chose. Donc, je pense qu'on a tous en commun la passion de la langue française, la passion de cette belle langue. Est-ce qu'on va pouvoir s'unir culturellement? Non, parce que nos cultures sont trop différentes. On va pouvoir le faire à travers la langue.
Tu as été bon dans la nuit. Hey babe, ah, tu as été bon dans la nuit. Ça fait toute la nuit. J'avais espéré ici.
vendredi, dernier jour. La journée est consacrée à une chose, le dépôt des projets. Qu'est-ce qu'on a demandé aux participants? On écoute le président-directeur général du Centre de la francophonie des Amériques, Michel Robitaille.
On leur a tout d'abord dit que les projets ne pouvaient pas être présentés par une seule personne. Donc, ils doivent former des équipes à minimum de 3 personnes qui doivent représenter 3 zones géographiques différentes, puisque notre objectif, c'est de permettre, à travers ces projets-là, des rencontres, d'illustrer la diversité culturelle de la francophonie des Amériques. Donc, il faut absolument qu'on le retrouve dans le projet. Le projet doit être réaliste, bien sûr, parce que on désire les accompagner au niveau des ressources humaines, mais également au niveau financier. Et on leur a demandé également s'ils pouvaient déjà identifier des partenaires. Il faut connaître vraiment le plan budgétaire de l'opération, aussi un calendrier, un échéancier pour la réalisation. On veut que les projets soient réalisés avant le prochain forum qui se tiendra l'été prochain. On veut également que ces projets-là, qui seront soutenus une première année, puissent avoir, au-delà de cette première année-là, une existence. Alors, c'est un peu l'idée qu'on a derrière ça, mais les participants ont carte blanche. Ils ont vraiment carte blanche et on leur a laissé leur imagination. Ils peuvent aller dans toutes les directions pour autant que leur projet touche l'ensemble des Amériques.
Ça fait toute la journée, je pleure, mes pieds sont beaucoup fatigués, mon corps est lasse et chiné. Je vais suivre la lune pour te trouver. J'attends 2 oiseaux après chanter. J'ai vu la paix après creuser. La terre est froide, ouais, c'est glacé. Mon gros corps est cassé. Je vais rodailleur. Oh baby, je vais rodailleur. T'es parti avec mon cœur. Je suis rondailleur. Oh baby, je suis rondailleur. Parce que t'es parti avec mon cœur.
Le projet, il y a des jeunes francophones âgés de 18 à 35 ans qui ont des certaines connaissances et des expériences de réalisation qui vont soumettre des courts-métrages de la réalité francophone dans leur région. Partout dans la francophonie des Amériques.
On décide de présenter le projet Passeport des Amériques, qui est en fait un programme de stage. Donc, le but, c'est d'envoyer pour la première année 3 stagiaires à travers les communautés francophones des Amériques.
Nous l'avons intitulé Navi Wiki, qui serait le réseau éducatif d'échange culturel interactif francophone. Alors, c'est un projet qui s'est fixé dans l'objectif clair, qui est bâti de constat que les milieux scolaires francophones ne se connaissent pas vraiment.
Mon idée est partie avec 1000 misères. Les cigales de nuit sont après se taire. Les étoiles brillent fort dans le ciel clair. Moi, je peux sentir les fleurs du cimetière. Je suis ici dans la nuit après mourir. Il semble que le chemin va jamais finir. Comme il y a un diablesse après me poursuivre. Comme la délivrance va jamais souvenir.
Pour évaluer ces projets, aux côtés de M. Robitaille, on retrouve l'auteur-compositeur-interprète originaire de Louisiane, Zachary Richard, ainsi que le président du conseil d'administration du centre, Jean-Marie Roy.
Le français a toujours passé à travers l'espace plutôt que de l'occuper. C'est un héritage qu'on a oublié depuis la conquête, parce que depuis ce temps-là, on est bien installé aussi. Mais c'est un héritage que je crois est primordial pour notre identité de franco-américain, de franco-nord-américain. Parce que grâce à Internet, maintenant, on peut passer à travers l'espace d'une façon assez extraordinaire. Moi, je veux que les gens de Saskatoon ou de Zenon Park dans Saskatchewan et les gens de mon pays et les gens de l'Acadie, les gens de Québec se sentent ensemble et solidaires.
Il y a un autre terreau qui est celui du 21e siècle, qui est celui de ce qui s'en vient, de ce qui est en train de nous arriver et qui nous donne des instruments extraordinaires, des raisons nouvelles, des finalités qu'on n'avait pas vu jusqu'à maintenant, de nous retrouver comme nous nous retrouvons ici cet après-midi.
Ça s'est bien passé, on a eu l'opportunité de travailler avec des personnes d'autres pays. Puisqu'on est habitué à travailler avec des personnes de notre pays, on sait comment nous marchons. Mais maintenant, il fallait travailler et se mettre d'accord avec un Québécois, avec une Acadienne, un Chilien, un Argentin. Donc, il fallait voir et travailler avec les personnalités et la culture des autres. Ça, c'est un défi aussi, essayer de se mettre d'accord. Et après, on a bien réussi à faire le projet. Bon, on va voir ce qui se passe, si on va être accepté ou non.
On a bossé, on a travaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais bon, aujourd'hui, vraiment, je suis étonnée parce que la qualité des projets, tous les projets sont excellents.
Là, on est dans un univers, je dirais, assez spécial, 10 jours avec les mêmes personnes. Mais quand on va retourner dans nos réalités au quotidien, dans nos vraies vies, il faut garder cet intérêt-là. Et ça, c'est vraiment un gros défi.
Les projets sont déposés. Leur évaluation est commencée. Tous bons, on essaiera d'en réaliser un maximum, nous assure-t-on. Pour les participants, le cœur est maintenant à la fête. Cette fête par laquelle on avait débuté ce parcours.
Les poissons sont à près mourir. Moi, je peux pas comprendre. Un oiseau est à près chanter. Mais on va pas l'attendre.
Une occasion pour nous de rencontrer les participants, de voir ce qu'ils ont pensé, ce qu'ils ont retenu de ces 10 jours, de ce forum des jeunes ambassadeurs de la francophonie des Amériques.
J'en garde une meilleure compréhension, un amour encore plus grand pour la langue française. C'est ce que je fais au quotidien. Moi, je me bats pour ma langue et j'en sors ici motivé. Je ressors avec un réseau de gens incroyables, mais surtout, je pense, avec une énergie nouvelle et avec une nouvelle perspective sur ce que c'est la langue française, ce que ça peut m'amener puis ce que ça va m'amener.
Une chose qui m'a touché profondément au cours de la semaine, c'est que entre francophones, si on parle de politique, ça tourne presque toujours au vinaigre. Cela dit, on a su, nous, mettre de côté la politique pendant la semaine pour juste concentrer sur ce que c'est d'être francophone puis comment qu'on peut partager. C'est peut-être pas ça qui va régler tous les problèmes politiques, les défis politiques, mais c'est au moins ça qui va nous apprendre d'avoir de l'empathie envers les autres francophones puis être en mesure de leur tendre la main lorsqu'ils en ont besoin.
Justement, qu'il y ait cette pluralité de culture-là fait en sorte qu'on a encore plus envie de le créer, ce réseau-là, parce qu'on dit, mais on n'est pas pareil, on n'est pas tous la même culture exactement, et donc on peut apprendre des autres, pas nécessairement qu'une est moins bonne ou, bon, peu importe, mais juste de voir qu'en communiquant avec d'autres personnes, on peut en apprendre sur leur culture, on peut connaître des artistes d'ailleurs, tout ça. Donc oui, je pense que ce réseau-là est nécessaire, puis c'est important que, comme on l'a répété souvent cette semaine, que quand on pense à la francophonie, on pense pas qu'à la France. Donc, je pense que c'est la pertinence de ce forum-là, que juste si on pouvait prendre conscience de ça, ben, c'est assez. Je pense que l'objectif aurait été atteint, là.
Le monde, c'est pas juste là où ce qu'on est. C'est bien plus grand, bien plus gros. C'est bien plus important que juste l'endroit où ce qu'on est. Ça m'a ouvert les yeux, non seulement au continent, au pluriel, là, aux Amériques. Les points de vue, il y en a beaucoup. Et c'est pas nécessairement qu'une personne a raison, mais qu'en se mettant à 2, 3, 300, 500, comme on est là depuis 10 jours, on peut échanger d'idées, s'exprimer en se respectant. C'est possible de travailler avec des gens d'autres endroits et finir par avoir de maudites bonnes idées.
Au fur et à mesure que les jours passaient, on a commencé à voir quelles étaient les différences de culture. Chacun regardait les choses d'un point absolument différent, mais ça faisait toujours les discussions, les débats, les conférences chaque fois plus intéressantes parce que chacun mettait une vision absolument différente. Et ça c'est hyper, hyper, hyper enrichissant.
C'est quelque chose que je ne vais pas oublier, les liens qu'on a créés entre nous.
Les rencontres que j'ai faites, juste au niveau des participants, de voir qu'il y avait des gens qui venaient d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale, qui ont appris le français pour eux, vraiment par intérêt personnel, ben, je trouvais ça vraiment génial, des gens qui décident d'en faire leur vie, de l'enseigner, tout ça, puis, tu sais, cet amour-là de la langue, ben, je le trouve génial, en fait, puis ça me pousse à réfléchir, puis à me dire que, tu sais, moi aussi, je l'aime, la langue que je parle, puis S'il y a un truc aussi que, ouais, que j'ai vraiment apprécié des rencontres avec les participants, c'est les différents accents. On a tendance souvent à juger, à caractériser, puis à vraiment, justement, se mettre dans des boîtes un peu, puis à dire telle personne qui vient de tel endroit, là, tel accent, tout ça. Puis c'est comme un peu, souvent, ouais, on ridiculise, puis... Je sais pas, on dirait que probablement que j'aurais pu cette vision-là, même si, bon, c'est pas, ça n'a jamais été quelque chose qui a fait en sorte que je dépréciais les gens, mais il me semble que ça a quelque chose de très intéressant de voir cette espèce de pluralité d'accents-là, puis en fait de réaliser qu'on parle tous la même langue, mais juste différemment.
C'était super de connaître, de savoir comment le français, soit langue maternelle, soit langue apprise, fonctionne dans tous ces rayons, et connaître des gens de différents âges aussi, parce qu'il y avait des personnes de 16 ans, mais il y avait aussi des 30 ans, 35. C'est ça surtout ce que j'ai bien aimé, la rencontre. Et du côté des ateliers, les ateliers, moi, j'ai bien aimé. Surtout, je connaissais déjà quelques chanteurs et quelques spécialistes, comme Gisèle Lalonde. Donc, les rencontrer, c'était magnifique pour moi.
La langue nous a unis ici, et ça, c'est incroyable. Je crois que c'est un petit peu révolutionnaire. Ça nous a permis de connaître les réalités des autres pays qui ne sont pas si loin, oh oui, mais bon, partager ça. Et maintenant, si tu regardes la carte de l'Amérique, il y a partout des amis avec lesquels on va continuer sans doute en contact. Et bon, ça, je crois que c'est beaucoup.
Ça fait des années que j'ai le goût de reconnecter à mon héritage. Puis je pense qu'en venant ici, j'ai rencontré des gens qui l'ont fait. Ça n'a pas été un parcours facile parce qu'il y en a qui ont dépensé beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup d'argent aussi à reconnecter avec leur patrimoine, mais ça m'a donné la perspective. Peu importe l'âge qu'on a, on peut toujours reconnecter avec le passé, puis c'est vraiment important de le faire parce qu'il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va.
Rien que le fait d'avoir eu un impact sur, entre guillemets, des ambassadeurs qui, par la suite, quand ils rentreront chez eux, auront un nouveau regard, pourront justement sensibiliser les autres, leurs familles, leurs amis. Bah, ce lien, il sera toujours retissé. Enfin, moi, par exemple, j'ai pu déjà échanger avec mes parents qui m'ont rappelé le regard que moi j'avais avant, par exemple, de l'Amérique, des Amériques du Nord. Donc, du coup, je me dis, mais non, bah, moi, j'ai compris plein d'autres choses. Et si vous voulez, on pourra en rediscuter ensemble. Et puis, ça sera peut-être l'occasion d'initier d'autres échanges, d'autres voyages. Donc, c'est vraiment le point de départ de quelque chose de nouveau.
Un forum comme ça, c'est super bien, mais ça rejoint seulement les 50 personnes qui y participent, malheureusement. Donc, c'est à nous maintenant d'essayer de trouver des manières d'aller rejoindre et de faire rayonner le centre vraiment à la grandeur des Amériques et chez autant de francophones que possible.
Regard sur le Forum des jeunes ambassadeurs de la francophonie des Amériques, un document audio réalisé par Raymond Poirier. Une production de CKRL 89.1 FM à Québec, en collaboration avec le Centre de la francophonie des Amériques et l'Institut du Nouveau Monde.